Le Grand Matin Sud Radio Weekend. Le débat de la semaine.
Le politiquement correct se rappelle à nous chaque jour ou presque depuis la mort de George Floyd aux États-Unis. Il y a 3 semaines, L'Oréal décidait de supprimer certains mots comme blanc ou blanchissant de ses produits. La semaine dernière, la mairie Lyon décidait de passer de la langue française à l'écriture inclusive ou épicène pour communiquer. Et il n'y a pas qu'en France que les choses vont dans ce sens, puisque cette semaine, le glacier danois Hansen a décidé d'arrêter d'appeler ses esquimaux glacés esquimaux, car stigmatisant pour les esquimaux du Grand Nord. Entre-temps, d'autres marques avaient décidé de revoir leur communication pour ne risquer de heurter personne. Va-t-on trop loin dans le politiquement correct? C'est le débat du dimanche sur Sud Radio. Et qu'en dit-on sur les réseaux sociaux, mon cher Benjamin?
Sur les réseaux sociaux, donc large majorité de oui à 90%, on a un auditeur qui nous dit que le terme esquimau disparaisse me semble juste. Par contre, l'écriture inclusive et le blanc de L'Oréal, c'est de la bobologie intellectuelle avec un mélange de frustration et peur du méchant.
Pour en débattre avec nous, Virginie Atlan, présidente fondatrice de Elle les Audacieuses, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio. Samy Biasoni, doctorant en philosophie, prof à l'ESSEC et co-auteur du livre « Français malgré eux » avec Anne-Sophie Nogaret. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio. Et Rouben Valéry, professeur dans le 93, auteur des livres « Brexodus » et « Noir, blanc, rouge, 35 noirs oubliés de l'histoire de France » publié chez Vuibert. Bonjour.
Bonjour Philippe.
Bienvenue sur Sud Radio. Tiens, allez, galanterie oblige, on va commencer... avec vous, Virginie Atlan, on va parler de l'écriture inclusive qui est devenue la langue de communication de la ville de Lyon. Est-ce que vous, qui êtes une femme, c'est vraiment un plus pour vous, l'écriture inclusive ?
Non, en aucun cas, franchement. Alors nous, on est vraiment et on défend tout ce qui est action positive et on n'est en aucun cas dans la revendication avec notre association Elle les Audacieuses. Mais selon moi, le langage inclusif, comme on l'entend aujourd'hui par les grands groupes qui s'en saisissent, sont en train d'essayer de se tenter à un nouveau marketing, d'un nouveau genre, si je puis dire.
Oui.
Il apporte rien selon moi, sauf de la division. D'ailleurs, certains commencent à boycotter ces enseignes, peut-être demain ces villes. Donc je ne crois pas que ce soit un atout pour l'image. Non, ils divisent, ils provoquent beaucoup de débats. Et je ne trouve pas ça très intéressant d'utiliser un langage afin d'inclure les personnes de tout genre. Il y a des femmes, il y a des hommes. Je comprends qu'on puisse choisir ce qu'on a envie d'être à un moment donné dans la vie, mais une fois qu'on a choisi, on est l'un ou l'autre. Voilà, tous ces mots, moi, me dérangent. Ça me fait un peu peur. Voilà, est-ce qu'une personne désigne uniquement une femme ?
Vraie question. Ben, on va poser la question au prof dans le 93. Vous enseignez quelle matière, Rouben Valéry ?
Ben, j'enseigne le français.
C'est bien pour ça, justement, qu'on vous a invité à
Absolument.
Double titre. Et juste une question. Déjà que nos élèves, quand on voit les copies du bac, sont pas particulièrement brillants en orthographe, vous imaginez vous corriger des copies en écriture inclusive ? Et vous en pensez quoi, vous, de l'écriture inclusive ?
Ah bah,
vous disent vos élèves ?
Alors, pour moi, l'écriture inclusive, bah, c'est tout simplement un Tchernobyl de la langue française. C'est tout simplement le couperet de la guillotine qui tombe sur nos phrases, sur notre manière de parler, sur notre héritage linguistique. On voit la qualité des copies à tous les niveaux, de l'école primaire jusqu'aussi à l'université. Les élèves ont énormément de mal à maîtriser les accords, à maîtriser l'ordre des mots, la syntaxe. Et maintenant, on impose cette espèce de zoubia linguistique qui ne correspond à rien, hormis une espèce de stratégie marketing ou alors répondant à une certaine idéologie. Les gamins, certains m'en ont fait part, ils sont complètement perdus dans tout ça. La question, c'est, mais monsieur, c'est la première question qu'ils me posent. Monsieur, comment ça se prononce ?
Oui, c'est vrai.
Comment ça se prononce ? C'est-à-dire que j'imagine certains textes. Imaginez vraiment des textes les plus emblématiques de notre histoire, comme par exemple le chant des partisans.
Oui.
Prenez la Marseillaise, etc.
Ami IES, entends-tu ? Oui, c'est vrai que là, le chant des partisans en écriture inclusive, ça va être rock'n'roll.
Prenez aussi les fables de La Fontaine et essayez de réciter cela avec l'écriture inclusive. Bonne chance.
Ah oui, bonne chance. Il va falloir qu'on essaye, tiens, ça peut être amusant.
Bel exercice.
Pour une émission d'humour, ce serait parfait. Samy, ça vient d'où l'écriture inclusive ? Vous vous penchez sur beaucoup de sujets sociétaux. Ça vient d'où ? C'est sorti, pas des universités américaines, théoriquement, parce qu'eux, ils n'ont pas, il n'y a que du neutre. Hein. I et chi, et après, il n'y a pas de souci.
Exactement. Alors en fait, déjà un premier point, je n'utilise pas le terme d'inclusive. Ça sous-entendrait qu'effectivement, il y a une sorte de propriété positive à cette forme de langage ou cette forme d'écriture. Donc, c'est comme vous l'avez très bien dit, une écriture épicène, qui mêle finalement les deux genres. Il faut vous rappeler qu'en français, il existe un genre neutre, c'est le genre masculin. L'Académie française l'a rappelé maintes et maintes fois, et tous les auteurs de notre belle littérature ne s'en sont jamais plaints. Maintenant, ça vient quand même des États-Unis. C'est-à-dire qu'au départ, le langage, la langue anglaise, elle est moins genrée que la langue française, comme vous le rappelez. Elle l'est toujours. C'est-à-dire que le it, c'est vraiment le neutre pour les inanimés, mais on utilise toujours le i et le she, donc on reprend des pronoms pour un certain
nombre de termes. On utilise it pour une voiture, mais on peut dire she ou he pour un chat ou un chien.
Voilà. Donc il y a quand même une marque du genre. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, les féministes américaines veulent se départir de toute référence à l'homme. Et donc, le terme woman devient woman. Elle remplace E par un Y pour former un nouveau terme, de la même manière que Justin Trudeau, le premier ministre canadien, ne veut plus utiliser mankind, l'humanité, mais peoplekind, pour être inclusif et pour ne plus marquer la référence au genre masculin. Donc ça vient bien, malheureusement, une fois encore, des campus américains. Ouais. Et des États-Unis.
Mais alors, justement, une chose, Virginie Atlan, on a cité L'Oréal en particulier dans ce texte où les Esquimaux, on va en parler un peu après. Vous qui êtes une femme, quand vous voyez qu'aux Pays-Bas, dans quelques temps, le sexe va être supprimé des papiers d'identité, et je vais poser la question aux hommes présents sur le plateau, ça vous inspire quoi ?
Moi, ça m'inquiète. J'aime bien savoir à qui j'ai affaire quand même, déjà comme ça, là, tout de suite. Non, mais je trouve que c'est ahurissant. Vous voyez, les sigles, les mots, c'est une dérive. L'écriture n'a rien à voir avec le sexe ou le problème de domination, vous voyez. Le terme la girafe n'a jamais voulu dire que toutes sont des femelles. Je trouve que vraiment, on est en train de se perdre. On est en train de tirer tout vers le bas. Et comme le disait très justement la personne qui s'exprimait avant moi, Samy, on est dans une dérive d'opinion qui nous vient tout droit des États-Unis, dictée par un mouvement intellectuel avec des méthodes très dures. On est proche du trotskiste, tout ça porté par les réseaux. Et puis, je crois que les médias mainstream concourent d'une responsabilité très lourde et honteuse de la mise en avant de beaucoup de thématiques aujourd'hui qui ne font que diviser. Donc moi, ça me fait peur, j'ai même pas envie de prononcer le nom de ces marques et de faire de la pub pour des personnes qui ne le méritent pas. Je préfère, moi, passer du temps et à parler de groupes comme Clarins, qui ont une politique de RSE remarquable, de la mise en avant de la femme, du respect, de l'accession à des postes qu'on a du mal aujourd'hui encore à voir émerger. Je trouve que ça, c'est positif. Je trouve qu'avec ces avancées, on grandit. Le reste ne nous permet pas, en tout cas, de miser, d'ailleurs, comme le disait le professeur, et d'accompagner
Rouben Valéry
directement, vers l'avenir. On est en train, les pauvres, de... Non, mais d'abord, ça doit être une angoisse pour ces étudiants, je m'imagine. Et puis, franchement, c'est pas un levier. On n'est pas en train de leur ouvrir une fenêtre vers un avenir positif de cette manière. Je n'y crois pas du tout.
Rouben Valéry, le fait qu'on fasse disparaître le sexe, les papiers d'identité aux Pays-Bas, vous trouvez ça comment ?
Bah, à un moment donné, on va se demander, mais qui sommes-nous ?
Voilà.
Alors, ce que ça veut dire, alors déjà, on commence par effacer cette mention sur les papiers administratifs.
Oui. Et alors après, qu'est-ce maintenant, que ça va être ? Maintenant, il y a parent 1, parent 2 aussi.
Voilà, et puis après, qu'est-ce que ça va être aussi au niveau vestimentaire ? On va nous lancer comme
on voit des trucs à la Fashion Week qui sont parfois assez...
Voilà, je crois que quand même ce qui serait intéressant plutôt que de se lancer dans ces espèces un peu de bizarrerie, voilà, qui ne correspond finalement à pas grand-chose, si ce n'est à se faire remarquer, si ce n'est à tout simplement à entrer dans une espèce de marketing absolument déplacé. Pourquoi dans les écoles, quels que soient les pays d'ailleurs, on ne partirait pas à la redécouverte des femmes qui ont marqué l'histoire, que ce soit aussi bien au niveau politique, que ce soit au niveau littéraire, artistique,
sportif.
On
avait Muriel Hermine tout à l'heure.
Absolument. Là, ce serait intelligent qu'on ait vraiment une politique de fond et non pas tout simplement ces espèces de stratégies qui, une nouvelle fois, perdent complètement les futures générations.
Samy Biazoni, le sexe qui va disparaître des pièces d'identité aux Pays-Bas, ça vous inspire quoi ?
Il faut savoir qu'il a, il a déjà bien disparu de la société aux Pays-Bas d'une part, où les lobbies trans sont assez importants, en Angleterre aussi, dans le métro anglais. Hein, on dit messieurs, mesdames et autres personnes présentes. La mairie d'Amsterdam utilise ce type de terminologie et nous-mêmes, effectivement, aujourd'hui, on met parent un, parent deux. Donc on est déjà avancé dans ce type de mécanisme. Il faut bien le comprendre. De la même manière, je reviens très rapidement sur ce qu'on disait sur l'écriture épicène. Aujourd'hui, ce qui se passe à Lyon, c'est pas un fait unique. La mairie de Paris communique en écriture épicène. Vous sortez des studios ici, et vous voyez que la communication de la mairie de la capitale française se fait en écriture épicène. Le Conseil économique supérieur environnemental, la troisième chambre...
Le 16.
Oui, exactement.
Économique, sociale et environnementale.
Exactement. Écrit et publie en écriture inclusive. Donc aujourd'hui, on a déjà franchi un certain nombre de pas. Parent 2, c'en est un dans ce sens-là. Donc effectivement, l'œuvre de déconstruction est bien en place, et elle est en place dans un certain nombre de pays occidentaux parmi les plus avancés.
Alors, on était aux Pays-Bas, direction le Danemark, c'est tombé cette semaine. Vous aimez les crèmes glacées, ma chère Virginie Atlan ?
J'adore les glaces.
Bah surtout, comme il va faire très chaud aujourd'hui.
Les Esquimaux, en plus, j'adore les Esquimaux.
Alors, justement, un fabricant danois de glace, haut de gamme, Hansen, a décidé de débaptiser ses Esquimaux. Excusez-moi, est-ce qu'il ne va pas falloir débaptiser les religieuses aussi ? Parce qu'après tout, si on ne peut pas manger d'Esquimaux, on ne peut pas manger de religieuses.
C'est dommage pour elle. Hein.
Oui.
C'est juste de l'humour. mais encore une fois, on est dans la dérive. Je ne crois pas qu'en plus... Enfin, le mot esquimau, pour moi, ça me rappelle depuis ma plus tendre enfance plutôt quelque chose de très positif, de bienveillant, de sympa, un moment heureux. Enfin, l'esquimau, c'est la connotation avec le côté froid. On n'est pas sur l'image de l'esquimau véritable. Je m'interroge. Alors, est-ce que demain, dans les recettes, il va falloir qu'on retire séparer les blancs des jaunes?
Oui, pourquoi pas ?
Pourquoi pas ? Non, mais je sais pas, je trouve qu'encore une fois, on est dans de la dérive. Vraiment, ça m'inquiète un petit peu, voilà.
Rouben, Valérie, quand on voit par exemple l'affaire des Esquimaux, c'est quand même hallucinant, mais ça vient pas aussi des États-Unis, parce qu'on dit plus blanc, on dit caucasien, on dit plus noir, oui, on dit afro-américain, on dit plus indien, on dit natif américain, native American, asiatique américain, mais c'est pas la quintessence de cette dérive qui vient qu'aujourd'hui, le vocabulaire est totalement surréaliste pour vous qui êtes prof de français.
Et puis on parle également de racisé, de minorité visible,
c'est justement,
etc.
Je posais une question. Vous vous sentez racisé, vous ? Parce que c'est un mot, déjà, je ne le connaissais pas dans le dictionnaire. Et vous vous sentez racisé ? C'est quoi pour vous ? Quand on vous dit vous êtes racisé, ça vous fait quoi ?
Je me sens être humain, je me sens français. Racisé, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, on a décidé de me cataloguer racisé d'un seul coup, comme si le combat d'une poignée était mon combat, absolument pas. C'est je suis français, je suis d'ascendance mauricienne, indienne. J'ai un héritage, j'ai aussi un avenir, mais je ne correspond absolument pas à ça. Et ce qui est quand même effarant, c'est qu'il y a 6 ans, si on avait parlé de tout cela, on ne l'aurait jamais imaginé.
Ah non.
Sauf dans un bouquin humoristique ou je ne sais quoi d'autre, ou dans un sketch.
Mais les inconnus auraient pu faire un sketch comme ça.
Absolument,
quand
mais même aujourd'hui...
Avec Pascal
les inconnus,
Légitimus, ça aurait été parfait.
Mais même aujourd'hui, vous savez, vous avez une chaîne de la TNT qui rediffuse assez fréquemment les sketchs des inconnus. Et il y en a certains qui ne passeraient plus aujourd'hui. Et d'ailleurs, jusqu'où ira le politiquement correct à un moment donné ? Alors, pourquoi ne pas supprimer certaines expressions aussi qui pourraient paraître offensantes, comme par exemple « travail au noir », idée noire, rire jaune. Pourquoi on ne changerait pas aussi les noms des noms de famille, de célébrités, comme par exemple Michel Blanc, Laurent Blanc.
Oui.
Pourquoi à un moment donné, on ne supprimerait pas certaines pubs, parce qu'elles portent atteinte à certaines personnes, comme par exemple Chaussée aux Moines,
hein, oui.
Ou alors Tipiac, parce qu'on se moquerait
des Bretonnes.
Pourquoi on ne boycotterait pas aussi certains artistes comme par exemple Johnny Hallyday parce qu'il a chanté Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Mais tout cela, malheureusement, n'est pas un scénario impossible, tel que c'est parti.
Samy Biasoni, il y a encore de l'espoir, contrairement à ce que chantait Johnny Hallyday.
C'est difficile, parce qu'en fait, tout ce qu'on vient d'écrire là, c'est ce qui se passe sur les campus américains. Aujourd'hui, les professeurs ne peuvent pas utiliser le terme de « jeudi noir » pour décrire un jeudi de crise, parce qu'effectivement, dans l'histoire, notamment en 1929...
C'était le 28 octobre 29 de mémoire, le jour du grand krach boursier à Wall Street.
Exactement.
Donc on ne dit plus jeudi noir aux États-Unis.
Alors, je ne veux pas faire de généralité, sur certains campus, eux s'appellent libéraux, on va dire très progressistes, effectivement, aujourd'hui, il est considéré comme offensant. Et donc, à ce titre-là, certains étudiants peuvent demander un droit de retrait, un droit d'isolement du cours, si on utilise ce terme-là. C'est-à-dire que si on apparie l'adjectif noir... à un terme péjorativement connoté. Tout ce qu'on est en train de décrire là, en réalité, ça existe. Donc c'est terrifiant. On se croit dans Orwell, on voit un certain nombre de prédictions d'Anna Arendt, alors qui n'étaient pas des prédictions, en fait, elle visait simplement à décrire les totalitarismes dont on sortait dans les années 50, et en fait on les voit revenir à grands pas. Donc tout ce qu'on dit, ça nous fait rire, j'espère que ça va continuer à nous faire rire, parce que c'est notre honneur en tant que Français de ne pas être dans ce genre de délire. La réalité, c'est qu'on en prend tout droit le chemin, et que chaque jour... On est obligé aujourd'hui affronter un renoncement supplémentaire sur la langue, sur la représentation et sur les idées.
Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, chaque semaine, il tombe un nouveau truc ? C'est ce que je disais dans mon intro. Virginie Atlan, est-ce que vous ne croyez pas qu'il va... Je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots, puisqu'on a parlé d'Esquimaux, de parler de retour de bâton, mais est-ce que vous ne croyez pas qu'il va y avoir une réaction ?
Une réaction, on le voit déjà sur les réseaux sociaux, vous le voyez bien vous avec la question que vous avez posée, hein. C'est un tremplin. Ça veut dire que toutes ces personnes qui se saisissent de ces petits courants qui sont portés et représentent des minorités qui s'agitent vont certainement avoir un retour de bâton. Moi j'en suis persuadée, mais ce que je pourrais dire en tout cas et ce que je pourrais espérer pour l'avenir, c'est qu'on fasse de la résistance. Que l'on s'attache à faire du journalisme de solution, à parler de solutions positives, d'actions positives, il en existe. Pourquoi est-ce qu'on est toujours en train de parler de ce qui divise ? J'aimerais vraiment que la majorité puisse s'opposer à cette minorité qu'ils culpabilisent tout le temps pour un seul objectif, mieux dominer et imposer des visions mortifères. Alors, c'est plutôt ça, moi, que je souhaite pour l'avenir.
Rouben, Valérie, vous pensez qu'il va y avoir un retour de bâton ?
Je pense que déjà, ce qu'il faudrait, c'est vraiment faire en sorte que les pouvoirs en place conduisent une véritable politique de fond et qu'on ne fasse plus le jeu, voilà, de certains groupuscules. Qu'on cesse aussi cette espèce de compétition victimaire qui fracture davantage le pays et qui n'en a absolument pas besoin. C'est-à-dire que là, il suffit de regarder, nous avons un pays qui est complètement désuni. C'est-à-dire que nous avons des femmes contre des hommes, nous avons des pauvres contre des riches, nous avons des noirs contre des blancs, mais il n'y a rien qui unit, il n'y a rien qui rassemble. Donc, à un moment donné, je crois qu'il serait quand même très intelligent de pouvoir vraiment réfléchir à ce sujet, de penser aux prochaines générations, de prendre de la hauteur sur certains événements et de ne pas être dans l'émotionnel, parce que oui, à un moment donné, la confrontation risque d'être inéluctable. Et il y aura bien un retour de bâton.
Le mot de la fin pour vous, Samy Biazoni ?
C'est malheureusement ce que l'histoire nous enseigne. Il y a une dialectique historique et qu'effectivement, un totalitarisme, un extrémisme en appelle un autre. Donc, si on veut éviter ça, il faut réagir aujourd'hui.
Et vous êtes d'accord qu'il faudrait que nos dirigeants prennent de la hauteur pour, comme on dit, remettre le clocher au milieu du village et ce n'est pas une entrave à la laïcité ?
Oui.
Je pense qu'il y a une grande pusillanimité sur ces questions-là. Il faut absolument, et c'est le point de départ, que les autorités saisissent de ça.
Merci beaucoup à tous les trois. Virginie Atlan, présidente fondatrice de Elle, les audacieuses. Samy Biazoni, docteur en philosophie, prof à l'ESSEC, co-auteur du livre Français malgré eux avec Anne-Sophie Nogaret. Rouben Valéry, professeur dans le 93, auteur des livres Brexodus et Noir, Blanc, Rouge, 35 Noirs oubliés de l'histoire de France. Verdict sur les réseaux sociaux, mon cher Benjamin.
Ça a encore augmenté sur les réseaux sociaux en faveur du oui. Plus de 91% pensent que oui, on va trop loin dans le politiquement correct.
Ah bah ça, c'est sûr que c'est une majorité à 91%. Ça ferait rêver beaucoup d'hommes et de femmes politiques. Dans quelques instants, on va parler du drame de l'incendie de la cathédrale de Nantes en compagnie du père Daniel Huigou. Et évidemment, ensuite, comme tous les dimanches, Thomas Binet et sa bande pour oser investir.